Environ 3 mois après, on vient de dire à Juda, ta mère, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, fais-la sortir, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui sort le premier. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite ! Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérah. Il est difficile de ne pas voir cette histoire comme un cheveu sur la soupe. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait au milieu de l'histoire de Joseph? On a vu Joseph, il est vendu esclave, il part en Égypte et on veut connaître la suite, on veut savoir ce qui arrive à Joseph en Égypte, mais on laisse Joseph tout seul pour l'instant. Et puis, on va parler de Juda et de Tamar qui n'ont pas de rapport, semble-t-il, avec Joseph en Égypte. Mais plus que ça, on veut connaître pourquoi cette histoire, et même dans la Bible, il y a des éléments scandaleux dans le déroulement de ce chapitre. Eh bien, déjà, une telle histoire nous garde de lire la Bible comme beaucoup le font, c'est-à-dire un livre qui est là pour nous inculquer la moralité et les bonnes mœurs, pour nous inspirer avec des bons principes de vie, nous donner quelques personnages sympas à imiter. Vous savez, c'est la saison des bonnes résolutions. Vous lisez ce chapitre et vous dites, voilà, en 2017, je vais être plus comme Juda, je vais être plus comme Tamar. Eh bien, ça ne marche pas, parce qu'ils ne sont pas vraiment à imiter. Et pourtant, n'oubliez pas que Juda et Tamar, ce sont les ancêtres de Jésus, c'est l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus, donc ce n'est pas des personnages anodins de la Bible. J'aime bien ce que disait Martin Luther à propos de cette histoire et d'autres histoires de la Bible. Il dit, moi je trouve plus d'aide et de consolation dans les lacunes et les défaillances et les péchés des saints dans la Bible que dans les vertus et leurs exploits. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de cette histoire? Eh bien, ce qui ressort à la fin, littéralement, ce qui ressort du ventre de Tamar, c'est un enfant qui s'appelle Pérette. Et Pérette, ça veut dire brèche, ou bien éclater, percer, jaillir, multiplier. C'est le même mot qu'on trouve dans une des formulations de la grande bénédiction, la grande promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Je lis ça en Genèse 28, où il dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Tu t'étendras, c'est-à-dire tu vas ta famille va se multiplier, va éclater, va jaillir. C'est ce même mot, Pérette. Et Pérette est une image de ce que Dieu fait pour son peuple. Laisser à elle-même toutes ces personnes, même cette famille élue, ce serait sombrer dans la déchéance et les mauvais choix. Mais la grâce de Dieu éclate, la grâce de Dieu jaillit, l'espoir fait une percée malgré un moment sombre pour Israël. Dieu, c'est ce qu'il aime faire, il aime faire une brèche dans le mur du mal et du désespoir et du péché. Vous connaissez une brèche dans une digue, par exemple. C'est pas bien de voir une brèche, une fissure commencer dans une digue qui retient l'eau, parce que ça risque de s'agrandir, et puis c'est l'inondation. Eh bien, le projet de Dieu, c'est d'inonder notre monde de sa grâce et de son salut. Et ça, il le fait, il le fera encore. Mais on peut remonter l'origine de cette inondation de grâce et de salut dans ces histoires en Genèse, où Dieu commence à faire des brèches dans ce monde de mal, ce monde de péché. Et je souhaite que ce matin, Dieu aussi puisse faire une percée dans notre vie, que nous puissions découvrir peut-être plus sur son plan et sa grâce pour cette année à venir. Alors ce matin, on va voir Judas pas juste, ensuite Tamar plus juste, et enfin la percée de la grâce. Tout d'abord, je vous invite à regarder un peu Judas, ce personnage, son comportement pas juste. Nous avons évoqué ce matin des personnes qui ont faim et soif de justice. Eh bien, ce n'est pas le cas de Judas dans Genèse 38. Dans les premiers versets, on apprend que Judas s'éloigna de ses frères et il descend vers Canaan pour prendre une femme. Déjà, cela se démarque de la démarche de ses pères, notamment Abraham et Isaac, qui ont dit à leur fils, ne prenez pas une femme parmi les Cananéennes. C'était le danger, c'est tout le peuple de Dieu, c'est ce peuple qui était à sa naissance, mais pour toute la suite aussi de son histoire, entouré par ces nations. Si tout le monde se marie avec les habitants de Canaan, en très peu de temps, il ne restera plus de peuple juif. C'est-à-dire plus d'espoir pour le monde. Alors, Judas, sa démarche est dangereuse, il risque d'effacer toute possibilité de descendance, cette descendance qui sera la bénédiction au monde entier. Et c'est peut-être une raison que l'auteur insère cette histoire à ce moment, même si les événements ont dû commencer avant que Joseph n'arrive en Égypte, parce qu'on est bien d'accord, les événements de ce chapitre parcourent quoi, 15-20 ans, le temps que Judas se marie, qu'il ait des enfants qui sont eux-mêmes en âge de se marier, il y a un certain laps de temps, probablement plus que Joseph ne passe pour arriver en Égypte et s'installer dans la maison de Potiphar. Mais voilà, notre auteur veut dresser un tableau assez sombre déjà de ce peuple élu. Joseph, il est descendu esclave en Égypte. Eh bien, Judas, lui, descend. C'est le mot éloigné d'ailleurs dans l'hébreu, descendu. Judas est en train de descendre moralement dans ses choix et sa famille aussi. Ses fils, c'est encore pire. Son fils aîné est méchant. On ne sait pas exactement quel était son comportement, mais on apprend qu'il était méchant devant l'Éternel et l'Éternel le fait mourir. Donc, déjà, cette famille, pas très juste. Et on se demande si Judas même était un bon père. Probablement, il n'était pas un très bon père pour que ses fils agissent ainsi. Et puis, ce qui se passe ensuite nous est étrange à notre époque, pour notre culture, mais voilà que Tamar, sa belle-fille, donc elle est veuve une première fois parce que Dieu a fait mourir l'aîné. Et rapidement, bientôt, elle va être même veuve une deuxième fois. Et à cette époque, la situation des veuves était une situation particulièrement précaire. Tamar, probablement, elle est toujours jeune. On se marie jeune. Et puisque Judas est en mesure de lui proposer encore son troisième fils, visiblement, elle est toujours jeune pour attendre quelques années à se remarier. Donc voilà Tamar, une jeune veuve, doublement veuve. Elle doit évoluer dans la culture de l'époque. Et sa situation était très, très précaire, avec un avenir nul. Personne ne va vouloir d'elle pour les ressources, pour la protection, pour sa vie. Elle est face à un avenir très, très difficile. Alors, une protection qui était mise en place pour gérer ce cas des veuves, notamment, c'était ce pratique qui s'appelle le lévirat, le mariage lévirat. Lévira vient du mot latin beau-frère. C'était au beau-frère de la veuve, le frère du défunt, d'assurer une postérité, une famille pour la veuve. Donc il y avait un remariage et puis les enfants, la descendance de la veuve, étaient comptés comme les fils du défunt pour que la veuve ait une famille et une sécurité sociale et tout ça. Pour que la veuve ne soit pas abandonnée, rejetée par la société, qu'elle ait une certaine justice dans sa vie. Alors ça nous paraît un peu bizarre, ce système de remariage, de beau-frère, tout ça, mais notre société fonctionne avec des protections sociales pour ceux qui sont vulnérables. Par exemple, aujourd'hui, pas de diplôme, pas de travail, ou pas de ressources, pas de famille. Forcément, ça peut conduire à des inégalités, des problèmes de société, et on va mettre en place des protections pour ces gens-là, pour qu'ils aient une chance aussi à réussir. Voilà la situation de Tamar, et en plus on sait, comme nous avons déjà lu ce matin, Dieu a très à cœur les veuves dans la Bible. C'était les veuves qui bénéficiaient de son amour, et il appelait souvent le peuple à prendre soin, à assurer qu'elles aient une justice, qu'elles aient une protection Par exemple, Jérémie, le prophète, d'autres prophètes ont annoncé un peu les mêmes choses, mais Jérémie dit par exemple, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais Judas, justement, il est pas juste. Il fait tout le contraire. Il ne pratique pas la justice et l'équité. Il veut pas délivrer la veuve. Plutôt, il va la maltraiter en quelque sorte. Il ne cherche pas à protéger les vulnérables et les pauvres, alors que c'est dans son pouvoir et c'était à lui d'offrir son fils. D'ailleurs, ça rappelle un peu ce qu'il avait fait avec Joseph, le petit frère qui était dans le chapitre précédent, qui lui aussi était dans une situation vulnérable puisque haï par ses frères, jeté dans cette fosse, Judas va pas défendre l'innocent, le misérable non plus à ce moment. On commençait à avoir un portrait de Judas, quelqu'un qui n'a pas faim et soif de la justice.
Et on apprend qu'il n'a aucune intention même de donner son troisième fils Shéla à Tamar. Dans le verset 11, on découvre un peu la raison. Il dit « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Mais il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Donc il n'a aucune intention de donner Shéla à Tamar. « Rentre chez toi, on va reprendre contact avec toi, t'inquiète pas. » Mais il n'a aucune intention. Et la raison, c'est qu'il pense que Tamar est la source du problème pour ses fils. Dans sa tête, c'est elle le problème. Alors que clairement, c'est pas elle le problème, c'est les comportements des fils qui ont fait venir un châtiment de Dieu sur eux. Mais dans sa tête, il arrive à voir Tamar comme une version femme de Barbe Bleue, vous savez, qui mettait à mort ses épouses. Ici, c'est Tamar sorcière ou très méchante, et c'est sa faute. Et il dit, si je donne encore mon troisième fils, il va mourir parce qu'il est en contact avec cette méchante, cette affreuse Tamar. Et ça, on découvre un peu un fonctionnement du cœur humain, le cœur qui n'a pas soif de justice. Souvent, pour se voir un ange, il faut voir l'autre comme un démon. Et Judas fonctionne comme ça. Il est obligé de voir Tamar comme très méchante, comme la source de tous ses problèmes, pour peut-être cacher ses propres lacunes, pour ne pas penser que c'est lui le mauvais père, c'était lui qui marchait pas dans les bonnes voies. Mais non, pour lui, c'est clair, Tamar, c'est elle qui crée les problèmes, c'est elle à la base de la mort, elle a jeté un mauvais sort sur notre famille, donc je me garde loin d'elle, et il se place en victime alors qu'il n'est pas. Bien des cœurs humains fonctionnent ainsi pour se voir juste, pour se donner une justice, on traite les autres de méchants. Donc on a un portrait de Judas qui n'est pas juste. Mais l'autre personne très intéressante dans ce chapitre, c'est Tamar. Tamar plus juste. Alors c'est plutôt elle qui est la victime dans ce chapitre. Mais est-ce une sainte? C'est sûr que sa démarche nous trouble. Elle va se déguiser en prostituée pour séduire son beau-père, coucher avec lui pour avoir un enfant. Faut-il encourager cette démarche? Évidemment non. Mais étonnamment, la Bible la voit comme plus juste que Judas, et le fond de sa démarche, c'est d'obtenir justice dans une situation où elle a été mal menée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, il y a ce moment de la tente des tontes des brebis. À l'époque, c'était un grand moment de fête et de réjouissance. Peut-être un peu comme les fêtes de fin d'année après les examens parmi les étudiants. L'ambiance n'est pas toujours très très chrétienne, on va dire. En tout cas, Tamar connaît son beau-père suffisamment bien pour savoir que ça va marcher. Il va se détourner du chemin, il va prendre une prostituée. C'est étonnant qu'elle connaît que Judas manifeste un tel comportement. Aucun retenue chez lui, aucune résistance à la tentation. C'est facile à le séduire, elle sait très bien que ça va marcher. Tout cela sera contrasté avec Joseph dans le chapitre suivant que nous allons voir la semaine prochaine, qui lui va résister à la tentation, notamment venant de la femme de Potiphar. Donc ça nous prépare à mieux apprécier la démarche de Joseph plus tard. Mais pour l'instant, voyant Tamar, donc elle se déguise en prostituée, et puis pour gage du paiement, elle demande un gage de paiement à Judas, et lui, elle propose ton cordon, ton cachet et ton bâton. Alors à l'époque, c'était comme le portefeuille, la carte d'identité et le portable. Okay, donne-moi tout ça. Et lui, aucun problème, prend tout ça. Les choses qu'on est prêt à échanger pour un moment de plaisir, parfois c'est assez stupide. Hein. Mais ce gage va permettre à Tamar de dévoiler le double standard de justice avec lequel les hommes fonctionnent souvent. Donc plus tard, quand Judas apprend que sa belle-fille est enceinte, et toujours il est à mille lieues de penser que c'est lui le père, ça lui traverse même pas l'esprit, on vient lui dire que Tamar est enceinte, mais sa réaction, quand même fort, en hébreu c'est juste deux mots, « Prends, brûle, faites-la sortir et brûle-la. » Nous voyons d'abord un peu l'hypocrisie de Judas, et cette hypocrisie perdure à travers souvent les âges et les cultures. Les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les filles doivent être sages. Une justice hypocrite, et il va réclamer une punition sur elle, sans penser à ses propres comportements. Nous voyons non seulement l'hypocrisie, mais encore cette haine, cette manière d'avoir démonisé Tamar ressort en plus parce qu'il réclame qu'on la brûle. Même à l'époque, c'était une punition extrême. Brûler à mort quelqu'un, c'était extrême, même quand il y a faute de cet ordre-là. Mais ça confirme qu'il voyait Tamar comme une sorcière, pour se voir comme un saint, et il va montrer une grande élan de désir de justice, alors que lui-même est coupable. Et le moment, le déclic arrive en verset 25, donc c'est en verset 24 qui dit « Prends, brûle !» Et verset 25, « Comme on l'a mené dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. » La scène devait être assez dramatique. On est en train de le traîner dehors, de l'amener vers le bûcher, et puis elle sort un petit paquet. Elle dit, donne ça à Judas et demande-lui de reconnaître à qui sont ces choses. Et c'était, son portefeuille, son portable, et sa carte d'identité, son permis de conduire. Mais le mot qui est fort, reconnais, je te prie, ça c'est verset 25, reconnais, je te prie, à qui sont ces choses. Et ce mot est un mot qui revient souvent dans le livre de la Genèse, souvent à des moments critiques, à des retournements de situation. Vous vous souvenez, Isaac n'a pas reconnu le même mot, n'a pas reconnu Jacob quand il est déguisé pour venir chercher, voler la bénédiction de son frère. Et puis juste dans le chapitre précédent, Jacob est appelé à reconnaître le même mot, la tunique de Joseph que ses frères ont truquée. En quelque sorte, pour faire croire à leur père que Joseph était mort. Et plus tard, Judas et ses frères ne vont pas reconnaître, même mot, Joseph quand il est en Égypte et qu'il est là dans le pouvoir, avec le pouvoir. Et dans tout ce livre, il y a beaucoup de déguisements, beaucoup de trahisons, beaucoup de retournements de situation où, à un moment, on est appelé à reconnaître quelque chose, et soit on est trempé, soit on reconnaît vraiment. Je pense que c'est un message pour nous tous. Tout le monde, on aime bien se déguiser, en quelque sorte. On aime bien porter des masques. On aime bien se cacher. On aime bien ne pas vivre pleinement dans la lumière. Et l'appel de Dieu, l'appel de la Bible, c'est de reconnaître la vérité, reconnaître venir à la lumière et reconnaître ce que nous avons vraiment fait, qui nous sommes vraiment. Et souvent, on pourrait prendre même des choses que nous avons dites, les preuves de notre propre vie, pour nous faire reconnaître que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Mais c'est ce moment qui va peut-être être utile pour Judas, parce que quand il voit les preuves évidentes qu'il n'est pas, lui, innocent, tout comme nous tous, un jour, que ce soit la Bible, que ce soit nos propres verdicts, nos propres jugements contre des autres, ça suffit pour nous faire reconnaître que nous sommes loin d'être parfaits. Quand il reconnaît ça, il dit quelque chose de fort en verset 26. Judas l'est reconnu. Donc il n'est plus dans le mensonge, la trahison, la tromperie. Il est reconnu. Judas l'est reconnu et dit, dans ma traduction, elle est moins coupable que moi. Mais c'est pas ce que ça dit dans l'hébreu, ça dit « elle est plus juste que moi ». Et j'ai appris récemment qu'il y a même un grand débat, toutes sortes de commentaires, même allant jusqu'au Moyen-Âge, qui ne sont pas très à l'aise avec « elle est plus juste que moi ». Parce qu'on est d'accord que la démarche de Tamar, on dit que ce n'est pas très juste ce qu'elle a fait. Il semble que même ma traduction a un peu du mal à reconnaître la démarche plus juste, en tout cas, de Tamar. On préfère dire qu'elle est moins coupable, pour mettre l'accent sur sa culpabilité. Mais en fait, ce texte met l'accent sur sa démarche, sur sa justice. En tout cas, Judas reconnaît que la justice est plutôt de son côté. Bien sûr, on ne dit pas qu'elle est juste, on dit qu'elle est plus juste que Judas. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est fort. On aime bien jeter la première pierre, les premières pierres, pour certains péchés, et excuser d'autres. Donc, c'est vrai que Dieu a très à cœur l'immoralité sexuelle. Quand on parle de péché, c'est souvent des péchés de cet ordre-là qui nous sautent dans l'esprit. Mais que pense Dieu de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la propre justice, de l'oppression des vulnérables? Il a très à cœur aussi ces attitudes-là qui conduisent à des péchés aussi graves dans la société. Mais c'est possible que Judas a appris une leçon et que c'est un début de transformation pour lui, je veux bien le croire. En tout cas, je sais que Dieu n'a pas fini avec Judas ici. Il y a une suite pour Judas. Et plus tard dans l'histoire de Joseph, Judas va montrer une toute autre attitude. Et en Genèse 44, là, Joseph est sur le trône en Égypte, mais en Genèse 44, c'est Judas qui prend la parole. Et là, on trouve un des discours dans la Bible les plus attendrissants, les plus nobles, les plus chrétiens, si je peux dire, où Judas a soif de vérité, soif de justice. Il veut protéger son petit frère Benjamin. Vous vous souvenez, c'est Joseph qui est en train d'éprouver ses frères, mais il dit, mais la prochaine fois, vous me ramenez Benjamin. Et puis, il met en place ce piège, et Benjamin est pris dans le piège. Et Judas dit, prends-moi au lieu de Benjamin, je donne ma vie pour Benjamin. Ça, c'est un autre Judas que le Judas de ce chapitre. Ça, c'est un Judas qui a faim et soif de justice. Et cet événement dans sa vie lui a donné une certaine humilité, une certaine repentance, un éclairage sur son propre cœur, la manière qu'il voyait les autres, pour secouer juste lui. Tamar lui a servi de leçon. Et c'est pour ça qu'on peut terminer en pensant à la percée de la grâce qui ressort dans ce chapitre. Aussi le but de nous avoir raconté tout ça, en laissant Joseph en Égypte pour un instant, pour y revenir dans le chapitre suivant. Le but, c'est aussi que nous, en tant que lecteurs, nous ne perdions pas de vue la ligne royale par laquelle Dieu va bénir le monde entier. Et c'est notamment par ce fils Pérez, qui va naître de Judas et de Tamar, c'est ce fils Pérez qui va continuer la ligne messianique, la ligne qui va aboutir à Jésus-Christ, la ligne des rois, comme David et Salomon et d'autres. L'autre, le sage-femme, c'est peut-être le seul personnage ici sans reproche, mais elle n'entre pas vraiment dans l'histoire, mais elle attache ce fil cramoisi, ce fil rouge, à la premier enfant qui sort. Alors nous, chrétiens, quand on nous parle de fil rouge, oula, on aime ça, on aime bien voir le sang de Christ, les sacrifices, cette histoire de la rédemption qui parcourt toute la Bible, et certainement, il y a un fil rouge dans la Bible qui pointe vers Jésus-Christ, mais les premiers lecteurs, je ne sais pas s'ils auraient pensé au sang de Christ ou à la croix, parce que c'était même pas encore, mais eux, ils connaissaient un peu l'histoire des jumeaux, qui se battaient dans le ventre pour être le premier, l'un qui sort en premier tout rouge, avec du rouge en tout cas, mais le deuxième qui le dépasse. Et en fait, ça c'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü, il sort en premier le rouge, mais Jacob, il va le dépasser en quelque sorte. Et ça c'est un thème récurrent en Genèse, le cadet qui déplace l'aîné. L'aîné qui, normalement, était le plus fort, le plus reconnu, le plus réussi dans la société à l'époque, c'est Dieu va plutôt prendre le cadet et bénir le cadet. Un renversement total des valeurs, des habitudes de l'époque. Le faible qui dépasse le fort, ça c'est Genèse. C'est Jacob, pas Ésaü. C'est Judas, pas Ruben. C'est Pérez, pas Zérak. Ce sont les Tamar et les Rahab, c'est-à-dire les Cananéennes prostituées, qui sont bénies et inclus dans le plan de Dieu, et pas les pharisiens religieux, par exemple, plus tard. Ça, c'est un thème de Genèse et de la Bible, et le Nouveau Testament le dirait comme ça. Le premier sera le dernier sera le premier. C'est comme ça que Jésus expliquait aussi son offre de grâce. Je pense que c'était un message pour le peuple Israël tout au long de leur histoire, et pour nous. Israël, malgré le sentiment peut-être qu'ils avaient de temps en temps d'être à la dernière place, d'être malmenés, d'être abandonnés, eh bien, c'est à ces moments-là que Dieu va aller chercher le dernier et le mettre en premier. Il va chercher le faible et le rendre fort. C'est à ce moment-là où l'espoir semble s'éteindre, où le péché abonde, c'est dans ces moments-là que la grâce éclate, que la bénédiction et les victoires vont éclater, vont se multiplier. Et comme Pérez a fait cette brèche, en est sorti comme ça, eh bien, Israël va aussi vivre ça avec Dieu s'il saisit son offre de salut et de grâce. Alors, il donne nos vies aussi, même lorsque le péché abonde, on peut espérer un Pérez, on peut espérer une brèche, une percée de la grâce de Dieu. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, c'est là où vraiment la grâce a éclaté, c'est là où il a fait la plus grande brèche dans le mal et le péché et la mort, pour que ça jaillisse dans la vie et la victoire. Et quand Jésus est mort et ressuscité pour nous, Dieu peut nous regarder et dire « La justice est de ton côté. T'es aussi juste que Jésus. » Même avec des démarches, avec un passé imparfait, comme celle de Tamar, tu es aussi juste que Jésus à cause de son œuvre, à cause de la croix, à cause de la résurrection. Imaginez des mineurs dans un tunnel. D'ailleurs, de telles histoires ont pu exister, même récemment. Il y a un écroulement. Les mineurs sont enfermés dans ce tunnel. Ils ont quelques outils, quelques pioches, mais ils n'arrivent pas vraiment à sortir. Par contre, on vient à leur secours depuis l'extérieur. Ils entendent les bruits des travaux, des gens qui essaient de les secourir. Et puis, à un moment, il y a un coup de pioche qui fait une percée, qui fait une brèche dans l'écroulement, et la lumière resplendit. Vous imaginez le sentiment de ces mineurs. Ça y est, on va sortir, on n'est peut-être même pas encore totalement sorti, mais ils ont fait la brèche, et maintenant, il y a juste une question de temps pour que on sorte de là, et qu'on vive dans la lumière, et dans l'air pur. Eh bien, ça c'est aussi le message de la Bible, ce que je vous souhaite pour cette année. Peut-être vous êtes dans une situation où il vous manque de justice, où vous-même écrasé par culpabilité, le péché. Sachez que Dieu vient à notre secours, il fait cette percée de grâce pour envoyer la lumière et pour nous donner l'espoir. Et on sait qu'il va revenir et nous délivrer et faire justice finale, et que nous puissions vivre dans cette joie, dans cette espérance-là.